lieu le FAST. Le FAST, c'est le Festival des arts de Sorel-Tracy. Et Sorel-Tracy, c'est à seulement une heure de transport en commun de Montréal. En plus d'avoir une programmation musicale sur laquelle on ne se peut plus, ici à Choc, le FAST présente des courts-métrages, du théâtre et une galerie d'art visuel. Alors si tu veux pas manquer We Are Wolves, Solids et Organ Mood, Choc te donne la chance de participer à son concours pour gagner une base valide pour toute la fin de semaine du festival. Pour tous les détails, on te donne rendez-vous sur le site de choc.ca.
Cet été, venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasseries telles L'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de Griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombes.com.
Tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche-Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Mesdames et messieurs, popeuses et popeux, je vous souhaite bien le bonjour. C'est un magnifique mercredi de canicule où les gens crèvent dans la rue comme si c'était l'apocalypse. Et au détour de cette magnifique température, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue à Pop en Stock, la version podcast. Car oui, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones, je le crois fermement d'ailleurs. Ouvroir de théories culturelles et espaces de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction pop. Populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, séries télévisées et imagination pure. Vous êtes avec vos animateurs, Jean-Michel Berthiaume, pas au micro en ce moment.
Qu'est-ce?
Et Francis Ouellette, au micro en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous avons à l'émission cette semaine une première et une dernière, entre grands guillemets, si je puis dire.
Tan, 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 tan.
Je vais commencer par la première pour finir par
tan,
la dernière.
Tan, tan.
Donc, première, c'est la participation d'une future collaboratrice, je l'espère, Elisabeth Simpson, avec un nom comme ça. Il le fallait.
Il le fallait.
Elisabeth, bonjour, bienvenue à Pop en Stock. Je te laisse te présenter toi-même, mais cela dit, je sais que tu es une collaboratrice pour l'émission Les Nyctalopes.
Oui, bien
à
sûr.
À l'instar de notre collaborateur Guillaume Couture.
Exactement, oui, je suis co-animatrice et co-chroniqueuse dans l'équipe j'allais dire, mais en fait, c'est comme Pop en Stock, hein. On est tout plein de gens, on s'échange, on se passe la main pour se dire, OK, mais c'est ton tour de...
Fait qu'on a officiellement
c'est ça, la
ici.
Voix, je me rappelais pas, tu sais, c'est... quand je t'ai entendu, il y a eu comme un espèce de glitch d'yeux.
Oh, c'est
je sais
elle!
Pas c'est qui exact... Ah, la voix.
Oui, c'est, je suis l'Amazon. Mais ici, en terrain
c'est
en
Francis
terrain
l'Amazon,
ennemi,
je m'excuse.
Ouais. Comment?
Ici, c'est Francis l'Amazon.
Oui,
ah,
tout à fait.
Ouais, ben c'est ça.
Tu seras le viking.
Ah, voilà, c'est merveilleux.
Ben, ma chère Elisabeth, bienvenue chez nous. Et dis-nous, donc, pour ceux qui seraient des néophytes, parce qu'en ce moment, on a vraiment un crossover officiel, j'adore ça. Ou plutôt un caméo, un guest star de notre émission, ouais, effectivement.
Faudrait que Guillaume soit là.
Ouais, c'est comme un numéro d'Avengers où il y a une apparition de Spider-Man, ouais. Tu seras Spider-Man pour les besoins. D'ailleurs, pour les besoins de l'émission, je tiens à mentionner que sur son mollet gauche, il y a un tatouage du symbole de l'Alliance des Rebelles dans Star Wars. Donc, c'est la personne toute désignée pour l'émission d'aujourd'hui, dont j'annonce le thème dans peu de temps. Mais Elisabeth, avant de continuer dans cette émission, les Nyctalopes, quand, quoi, où et comment?
OK, les Nyctalopes, c'est une émission qui discute du paranormal, du surnaturel, de l'étrange, de l'obscur. On se donne comme mission de faire rire et de faire rire jaune surtout aussi et de choquer et par moments même de faire réfléchir. Donc, c'est notre mission. Nous sommes donc de 19h à 21h sur les ondes de CISM 89,3, La Marge.
Yes, you do it! Et donc, pour le dernier, mais non le moindre, Clément Pélissier. Qui ne sait pas qui est Clément Pélissier si ça fait 2 mois que vous écoutez, même 3, que vous écoutez notre émission? Clément qui a été d'absolument tous les podcasts depuis et dont la présence et la voix ronde a été très, très appréciée. Clément, c'est un plaisir de t'avoir. D'ailleurs, je parle pas de la plétarde de tes projets puisque je sens que nous resterons associés à travers les vents de mer.
Mon cher, may the force be with us.
Ah oui, absolument. Donc, mon cher, bonne dernière émission avant le retour dans ton patelin du vieux pays. C'est un plaisir de t'avoir avec nous.
Yep.
Cette semaine, la notion fascinante de canon, son importance et ses particularités, la forme particulière que la notion de canon prend aussi dans la culture geek. Et pour ce faire, on n'a pas le choix, on va prendre tout particulièrement Star Wars comme exemple, parce que c'est un phénomène assez précédent, j'allais dire, dans la culture narrative, dans la culture geek. Que dis-je? C'est un phénomène assez précédent dans la culture humaine, ce niveau de canonisation, d'obsession pour la canonisation culturelle. Star Wars en est un des exemples les plus flagrants, étant donné que la façon avec laquelle il faut appliquer le canon, le considérer, semble changer de façon intergénérationnelle. Évidemment, le canon, ça ne s'applique pas qu'à des grandes franchises geeks, mais il va sans dire que les grandes franchises geeks ont une façon particulière, extrêmement épanchée, de faire opérer cette notion. Donc, commençons par la simplicité élémentaire de ce qu'est à la base un canon. Je dis simplicité élémentaire, il y a des liens. Évidemment, le canon, c'est une référence à caractère biblique. On considère que c'est l'ensemble des textes qui forment les Écritures saintes dans la Bible. Il y a, oui, je vous le ferai savoir, des textes qui sont considérés comme non canoniques et qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Donc, il y a littéralement dans ta collection de comic books à propos de Jésus et de Dieu, des numéros qui ont été retirés donc de ta collection au complet. Donc, si tu avais tous les comic books de la Bible, allant du Cantique des Cantiques jusqu'à l'Apocryphe selon Saint Jean, il y a des numéros manquants, ouais, mais qui n'ont pas été considérés comme par l'éditeur officiel.
Et à la même manière que, par exemple, des événements de bande dessinée, par exemple, très rapidement, Crisis on Infinite Earth, sont là pour opérer comme un espèce de bouton de reset sur la continuité.
Exactement.
Le même phénomène la Bible a vécu les mêmes phénomènes. Au 14e siècle, on connaît l'histoire des moines rouges qui se sont tous rencontrés, ces lugubres et mystérieux moines rouges qui pourraient être drapés de casques et d'immobilité scythienne, pour venir connecter à la thématique plus tard, qui ont eu à déchirer des pages de la Bible. En fait, au 14e siècle, on sait que ce groupe-là aurait décidé qu'est-ce qui faisait partie du canon biblique et non. Et ça serait arrivé, j'imagine, 2 à 3 fois au courant des 2000 dernières années, où il y a des rencontres au sommet qui ont dit « le canon doit être revisité », puis c'est nous autres qui va le faire.
Absolument. Ouais. Et si on considère donc que dans un laps de temps similaire, c'est-à-dire 2000 ans, s'il y a une suffisante désagrégation de notre société et de notre civilisation, il y a de très fortes chances que Star Wars soit considéré comme le texte sacré, ou du moins la référence mythologique sacrée. C'est tout à fait possible.
Totalement. Totalement. Il y a un film
qui joue. Opéré de la même façon. C'est opéré de la même façon. Ah oui.
Ben oui.
Tu parles du film post-apo éthiopien qui joue à Fantasia cette année.
Exactement.
Crumbs.
Oui, Crumbs, qui fonctionne sous cette idée-là d'un espèce de monomythe qui survivra.
L'idée que lorsqu'on trouve un vestige d'un poster de Michael Jordan, c'est forcément une figure mythique du passé qu'on peut pas identifier. J'adorais l'idée que les personnages se mettent à genoux devant des petits hôtels avec des canettes de Coke et avec des images de Michael Jordan, ne sachant absolument pas à quoi ça fait référence.
Mais c'est ça, en mythologisant quelque chose qui avait une histoire qui les échappait.
Mais en quelque part, il y a dans le film, et c'est vrai que c'est intéressant, quelques vestiges thématiques de l'objet, comme par exemple lorsqu'il trouve un Ninja Turtle, la description qu'ils font de ce à quoi ça servait un Ninja Turtle à notre époque a aucun sens au niveau religieux et politique, mais en même temps, oui, c'est le fétiche d'un groupe de 4 combattants qui affrontait qui avait une certaine adversité dans le monde, et lorsqu'on on a un de ces 4, il faut absolument, quand il dit, il faut absolument avoir les 4 fétiches pour pouvoir compléter l'équipe. Collect them all. Mais collect them all comme idée sacrée ici.
Et ton exemple de Michael Jordan est bon, puisque cette femme-là, cette épouse-là, cette épouse à venir qui veut souhaiter bonne aventure, bonne quête à son mari.
Voilà.
Lui souhaite de fly like Jordan.
Fly like Jordan, que ça devient une ligne sacrée.
Exactement, c'est un
mantra. Moi, c'était le grand film. Moi, c'était la grande découverte de Fantasia cette année, soit dit en passant. On vous le recommande, film post-apo éthiopien. Oui.
Du coup, je me pose une question, en vous écoutant parler, une question que je n'avais pas prévue. Donc, si jamais ça nous emmène trop loin, je vous laisse, mes chers animateurs, devant l'éternel.
Jamais trop loin, mon cher.
Il y a beaucoup de choses que jamais tu prévois loin. Pas de, de cette émission.
The Infinity.
Que je t'aime, Jean-Michel, quand tu es hors de la vitre.
C'est vrai, hein. C'est ça l'idée, c'est de m'isoler là-dedans, ça m'empêche d'être tactile.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, j'en suis tout troublé. Bref.
Get it on.
Donc, la question, en écoutant la définition, c'est est-ce qu'on pourrait rapprocher ça de la notion de culte? J'entends par là la notion de série culte, de film culte, la notion de culte dans la culture geek.
Bah absolument. Totalement. Moi, je trouve que ta notion est tout particulièrement importante, en ce sens que c'est quelque chose qu'on fait souvent le jeudi au 7e antiquaire. L'idée que l'appellation que l'on donne de façon contemporaine à la culture du mot culte peut très souvent être liée au sens primaire du mot. Tu sais, par exemple, un film comme The Rocky Horror Picture Show, il y a définitivement peu de choses qui est aussi culte que ce film-là. Mais ce film-là est aussi un culte. Il y a littéralement un culte et c'est un film qui est aussi à caractère occulte.
Ben, on est dans le meilleur exemple possible ici avec Star Wars. On se rappelle tout de du bulletin électoral en Angleterre où ils ont eu assez de ballots. Il y a eu un assez gros recensement de gens qui se sont autoproclamés Jedi pour avoir à le mettre.
Absolument.
C'est arrivé, ça.
Et c'est aussi, je pense, dans Star Wars aussi, c'est la notion qu'on voit dans beaucoup d'autres œuvres de fiction, mais c'est la notion d'avoir des puristes, là, ou des gens qui vont s'ostiner le nombre de fois où est-ce que des gens me disent « Est-ce que tu tripes vraiment sur Star Wars? Est-ce que tu connais tel détail de tel livre qui sont sortis après telle affaire? » Puis c'est comme « Ben non, ben c'est comme « OK, t'es pas une vraie... »
Un test d'érudition.
C'est exactement la même chose que la religion, en fait.
C'est le risque de se faire excommunier quasiment, si jamais,
effectivement.
Si jamais vous pas dans les canons.
Ben voilà.
Excellent point.
Exactement ça.
C'est vrai.
Exactement ça. Ben, il y a excommunication. Non, t'es pas un vrai.
Non, mais le geek shaming, c'est.
Le geek shaming, c'est l'équivalent de l'excommunication verbalement prononcée par quelqu'un qui s'autoproclame autorité, soit dit en
passant. Donc, c'est ça. Donc, il y a un performatif du langage geek.
Voilà.
Et c'est aussi de se dire que tu peux avoir des suivants, mais que si tu t'autoproclames comme étant une personne qui devrait être une vraie fan, un vrai fan, tu devrais connaître toutes ces choses-là. Comme si, mettons, tu es un vrai chrétien, tu dois connaître tous ces principes-là. Pourquoi est-ce que tu...
Sinon, t'es pas un vrai chrétien. Exactement. Ou t'es d'une autre religion ou d'une autre allégeance, ce qui est pire.
Ah,
ou pire, au sein d'une même allégeance, t'es pas protestant. T'es chrétien. Ouch. Voilà. Donc, les différentes générations qui ont vu Star Wars et qui en ont parlé fonctionnent un peu comme ça, comme des protestants et des chrétiens qui ont justement pas les mêmes allégeances par rapport au même culte. Ça, c'est pour la première notion de ce que c'est l'idée canonique qui est héritée à la Bible, la notion de sacré. Il est assez fascinant de voir qu'il y a une association qui peut être faite avec ces grandes franchises et les textes sacrés. Souvent, des grandes franchises, d'ailleurs, qui ont la possibilité de s'exprimer dans plusieurs mondes narratifs, jeux vidéo, bande dessinée, romans, films et séries télé. Dans le cas de Star Trek, Star Wars, fort probablement les deux plus grandes franchises de science-fiction de leur génération, ces notions de sacré-là prennent une forme toute particulière, ne serait-ce que parce que les Jedi, comme tu le disais, sont une religion maintenant recensée et officielle. Et de la même façon, plusieurs des cultes, plusieurs des religions proposées dans Star Trek ont aussi été officialisées, dont le mode de pensée philosophique des Vulcains est une religion officielle. Donc, dans les deux cas, l'idée de culte nous a rattrapé littéralement ces franchises-là pour devenir un véritable culte, exactement comme le proposait Clément. Donc, c'est assez intéressant comme notion.
Et pendant qu'on y est, parce qu'on est en train de parler du texte, il y a un texte qui est très important aussi au sein même de Pop en Stock, qui est peut-être même à sa genèse de l'émission, que vous devez absolument, chers auditeurs, aller le lire. C'est un texte d'un de nos grands papes fondateurs, parce qu'il y a 4 papes fondateurs à Pop en Stock. Le pape fondateur Samuel Archibald, qui a publié sur le portail de Kinefanos, un article splendide et spectaculaire que je vais citer outre mesure durant l'émission, mais que je veux vraiment vous encourager à aller écouter, à aller lire, pardon. L'article en question s'intitule « Épître aux geeks, pour une théorie de la culture participative. Et il ouvre sur une citation de l'Épître aux Romains de Paul, où il dit « Je ne veux pas vous... » où il dit, pardonnez-moi, c'est un texte saint, je dois placer le décorum, et je cite « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais je n'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » On va parler de ça aujourd'hui.
Bam!
Samuel, merci énormément de participer à cette émission.
Bien sûr.
Il existe une théologie geek.
C'est bien évident. Plus que jamais. Et elle est excessivement codifiée. Ben, c'est pour ça justement que l'émission d'aujourd'hui, en quelque part, ça affronte cette codification-là. Elle n'est pas que religieuse, elle est aussi geek, profondément geek. Donc, le terme de canonicité, on le trouve associé à ce qu'on considère à Popenstock le premier des super-héros complet et total de l'histoire de la littérature, Sherlock Holmes, première grande figure populaire à créer ce genre de ferveur quasi-religieuse dont on parlait. D'aucuns oseront dire que ce n'est pas une des premières figures, d'ailleurs, proto-geek, que Sherlock Holmes. D'ailleurs, dans notre émission que nous avions faite durant la première année à Pop en Stock, quelqu'un a fait l'observation, je crois que c'est Sabine Garcia, que la relecture de la BBC propose littéralement une figure contemporaine de Sherlock Holmes qui est celle d'un geek, fonctionne avec tout l'apanage d'un geek contemporain. Donc, c'est d'avoir vu les germes de ça dans les textes originaux de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, déjà, le terme de canonicité vient de là aussi, parce qu'avec la pléthore de copies qu'il y avait autour des personnages autour de Sherlock Holmes, la pléthore de continuateurs de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, il fallait pouvoir départager les pastiches et les continuations, les textes officiels.
Cette idée-là nous provient aussi potentiellement de Sarah Grenier, qui vient, et ça,
ah oui,
ça,
fait,
ça mérite d'ouvrir la parenthèse, qui vient de terminer sa maîtrise sur Sherlock Holmes. On la félicite énormément.
Félicitations,
ça a été un
Sarah.
Gros travail. Mmh. T'as très, très bien Absolument. Fait ça, on est fiers.
Un autre élément donc à dire à propos de Sherlock Holmes au tournant de Sarah Grenier, c'est que Holmes fut une des premières et rares instances en littérature et en culture d'un personnage dont la voix des fans a été tellement épanchée qu'elle a causé la résurrection du personnage.
Comme Spock plus tard. Mais...
Absolument.
Mmh, bien dit.
On a un cas exceptionnel où la participation, l'apport participatif de fans change littéralement le canon, et ça, malgré la volonté de l'auteur.
Fans et non, je ne sais pas si tu connais l'histoire, que c'est la lettre de sa mère.
Oh.
C'est la mère
non,
de...
Non, c'est ça, tu me l'apprends.
La mère de Conan Doyle.
Pourquoi tu l'as tué? Fais-le reviendre.
C'est exactement... ben, avec un anglais un peu plus victorien.
Ah oui?
Mais c'est essentiellement ça qui s'est passé. Et il y a des gens qui interprètent, dans le canon de l'histoire de Sherlock Holmes, interprètent la présence de la mère de Conan Doyle comme étant le véritable game changer dans cette histoire-là. Il y a reçu une lettre de sa maman.
C'est oedipien. C'est complètement oedipien.
C'est très oedipien. Mais j'aime aussi... c'est une très bonne anecdote à vérifier, ça, je trouve. C'est vraiment génial. Il faut le savoir si on ne sait pas tous. C'est encore cette idée assez précieuse que pour des raisons politiques, donc ici des raisons pécuniaires, mais des raisons politiques néanmoins, une franchise, le canon biblique pouvait être changé pour des raisons sociopolitiques.
Oui.
Donc, il en va de même avec nos grandes franchises au détour d'un seul et unique élément parfois, on peut remettre en question au complet l'architecture au complet d'une œuvre narrative qui a duré 40-50 ans.
Mm-hmm.
C'est le cas pour Star Trek, c'est le cas pour Star Wars, c'est le cas pour Doctor Who aussi. Mais on va se concentrer sur les gros, sur Trek et Wars pour aujourd'hui.
Mais avant de fermer, le livre de Sherlock Holmes, ça vaut la peine aussi de mentionner que c'est dans une œuvre de T.S. Blakeney, un livre de 1932 qui s'appelle Sherlock Holmes Fact and Fiction, que le terme canonicité a été pour la première fois utilisé dans le contexte de la culture populaire.
Magnifique.
Donc, ça provient des années 30.
Magnifique. Et d'ailleurs... Bon, Clément?
J'ai envie que vous sachiez que ce qui m'a fait, à mon sens, prêter allégeance à l'imaginaire, c'est la résurrection de Sherlock Holmes.
Ah oui, ça a été l'élément déterminant pour
moi. Ça a été l'élément déclencheur pour moi.
Ah, tu vois, moi, c'est le champignon hallucinogène.
Ah, c'est... Comme je te crois.
Je laisse la ligne que tu as dit, Elisabeth, juste inspirer la réflexion de nos auditeurs. Lorsqu'elle faisait la filiation de la résurrection de Sherlock Holmes et de Spock, je trouve ça assez magnifique parce que ce sont ces deux personnages qui sont à mon humble avis, de la même descendance. D'ailleurs, il faut vraiment voir le Sherlock Holmes joué par Benedict Cumberbatch, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Star Trek. Le Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch a quelque chose qui est très, très proche de Spock, évidemment. Il y a une relecture, cette espèce de rationalisation parfaite, d'observation factuelle des choses. D'ailleurs, il y a, de nos jours, des fans associeront des lignes qui croient être à Spock, ce sont des lignes de Sherlock Holmes.
Oh, vraiment?
D'ailleurs, oui, il y a des lignes qui sont, c'est Spock qui dit ça. Non, c'est Sherlock Holmes qui le dit, mais c'est bien intéressant qu'on croit tous que ce soit Spock. La fameuse ligne à propos de ce qu'il reste après l'évaluation, aussi improbable que ça puisse paraître, l'explication qui restera sera la plus simple.
Mais en parlant de résurrection, en fait, c'est un lien qui sera peut-être pas pertinent, là, mais que je me disais, oui, là, les fans peuvent avoir tellement, faire de pression sur les auteurs de se dire, OK, il faut qu'on sauve, il faut qu'on le résurrecte, mais des fois, c'est en fait prévenir la mort. Et je me rappelle lorsque J.K. Rowling avait dit peut-être que Harry Potter ne survivra pas à ses aventures, la pression des fans avait tellement été... avait tellement été forte qu'elle a dit « OK, c'est beau, je vous garantis qu'il ne va pas mourir. »
Et l'inverse est aussi vrai quand que DC a publié un sondage postal. Est-ce que je tue Robin?
Par téléphone. Participation téléphonique, ouais.
Le poids du public a été dans le camp du oui, et c'est pour ça que le premier Robin est décédé.
Le deuxième,
de Grayson Darkhold.
Et peut-être sais-tu qu'il y a eu, même après le résultat de ce sondage-là, des lettres et des gens qui sont venus éplorer devant les portes de DC Comics pour dire aux auteurs vous n'aviez pas le droit de tuer Jason de cette façon-là.
Absolument. De cette façon-là, c'est bien dit.
On parle de Jason Todd, non pas de Jason Voorhees. Résurrection pour résurrection, je veux pas que nous les fans... Mais important,
c'est bien d'instaurer le canon.
Dans cette fameuse histoire de Jim Aparo et de Jim Starlin, ce qui est de très intéressant, c'est qu'elle arrive dans la mouvance... Encore, on est encore dans le thème. Elle arrive dans la mouvance d'un changement de paradigme dans le comic book aux États-Unis. Cette idée de déconstructionnisme des grandes idéologies et des grands personnages. On associe souvent à Dark Knight Returns, à Batman Year One et aussi à Watchmen cette espèce de déconstructionnisme là. Moi, je considère qu'un des moments les plus saillants, les plus forts de cette époque là, c'est ce moment où les gens pouvaient voter à savoir s'ils peuvent tuer Robin ou non, parce que Robin, c'était la couleur, c'était l'espoir, c'était le personnage qui, avec sa seule et unique volonté, arrive à devenir, et il le deviendra, l'égal de Batman. Mais tout ça avec une espèce de joie de vivre qui a rapport évidemment avec le personnage dont il est le symbole, c'est le Merle, qui est un fétiche. Qui est en quelque part un totem beaucoup plus coloré que celui de Batman, on le voudra. Et c'est de tuer cette couleur-là. Ouais. C'est de tuer ce qui faisait la spécificité du rêve. C'est de tuer le personnage, il y en a souvent dans la culture geek, par exemple Wesley Crusher dans Star Trek Next Generation, c'est tuer ce personnage-là qui est créé de toutes parts pour que toi, le lecteur, tu puisses t'identifier et participer avec une certaine proximité aux aventures du héros. En tuant Robin, on tuait l'espoir. D'ailleurs, le Merle, qui est un symbole d'espoir et de résurrection, c'est de le tuer. Donc, à mon avis, l'âge noir des constructionnistes de la bande dessinée commence presque plus, de façon plus saillante avec, parce qu'on est dans les années 80, avec cette histoire.
C'est bien, c'est très, très intéressant.
À coup de crowbar, d'ailleurs.
Ouais,
d'ailleurs, à coup de crowbar, l'outil prolétaire par excellence. On tue l'espoir avec l'outil prolétaire par excellence. Bon, on digresse.
Non, parce qu'en même temps, ça ouvre une porte que je vais refermer d'ici aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qui a commencé, des germes qui ont commencé à être placés à ce moment-là, vers les années 70-80, puis c'est aussi avec la montée de l'autopublication et du fanzine, un canon alternatif, le canon qu'on appelle le canon du fandom, donc le fanon. Et cette idée-là d'avoir un groupe d'individus qui ne sont pas... qui prennent en eux la décision de rectifier des torts narratifs et de dire, c'est nous autres qui va écrire l'histoire définitive.
J'ai une question parce que je connais pas du tout cette notion-là. En fait, est-ce qu'il y a des figures d'autorité dans des fanons?
Strictement au niveau informel. Un groupe va décider de suivre quelqu'un qui s'est imposé comme un garde-chiourme, par exemple, de tout ce qui a rapport. Dans Star Trek, c'est comme ça que ça fonctionne. On va aller sur un tel site web parce que l'individu qui est là, encore plus que les Wikipédias de Star Trek sont séparés en trois, pour donner un exemple. T'as le Memory Alpha. On considère que ça, c'est la banque de données pour tout ce qui est canonique. Ensuite, t'as une Memory Beta qui parle de canonicité, mais pour les choses qui n'ont pas directement rapport avec les films ou les séries télé. Et là, on a un autre memory qui sert à strictement le matériel de fans, les romans, les bandes dessinées et même le fanfiction.
C'est
donc,
ça.
Quand on commence à parler de fanfiction et de culture parallèle qui ont rapport avec les bandes dessinées, il y a des gens sur le web qui s'auto-proclament des autorités et que des gens décident de suivre ou non sur des forums.
C'est ça, il y a une autorité populaire qui est très importante, là, c'est qu'il n'y a pas un individu qui règne sur l'imaginaire. C'est pas tout à fait le cas avec Star Wars, puis on va voir comment que ça fonctionne, ça. C'est que les gens décident, par vote public, d'accepter une interprétation ou une autre. Fait qu'une interprétation peut tomber en désuétude parce qu'elle perd de la popularité, ou elle peut être intégrée dans le canon quand quelqu'un véritablement d'autorité décide de la récupérer puis de l'intégrer dans quelque chose qui est canonique. Ça arrive, il y a une très, très belle dynamique par rapport à ça, de dire, moi, je suis total... Tu sais, un exemple, encore, on retourne à Batman, c'est bien étrange, là, mais la fin de Killing Joke. La fin de Killing Joke a eu un 20 ans de misconception. C'est assez difficile à traduire, malheureusement, mais une incompréhension par rapport à la fin de Killing Joke. Il y a 2 ans ou 3 ans, l'auteur écossais Grant Morrison a été à un podcast, le podcast de Kevin Smith, Fat Man on Batman, et il a déclaré son interprétation de la fin de Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, en disant, moi, je crois, et si tu regardes la dernière planche, c'est clair que Batman tue Joker. C'est fait.
Évidemment, comme on n'a pas la réponse ni de DC Comics, qui est techniquement le gardien du canon, ni la réponse de l'auteur et de ce qu'il voulait faire au niveau du scénario, et il n'en parlera jamais, nommément Alan Moore,
ben oui.
Il n'y a aucune façon de savoir si c'est canonique ou non.
C'est ça, il y a un canon de Schrödinger ici. Ah, non, mais c'est ça,
essentiellement. Cette phrase, je l'ai écrit mot pour mot.
Mais c'est
je l'ai écrit mot pour mot parce que c'est exactement ça.
Quand
Grant Morrison est parti sur la notion de que cette histoire-là préfigurait la mort de Joker, alors, depuis des années, on considère que The Killing Joke est plus ou moins l'origine officielle de Batman, de Joker.
Oui, oui.
Ben, ça marche plus, Joker meurt.
Ben, c'est ça, exactement.
Donc, conséquemment, c'est une origine parmi tant d'autres. Ça fonctionne très, très bien avec la façon avec laquelle le personnage de Joker est devenu puissamment métafictionnel à travers les décennies et qu'il commente lui-même sa propre origine. Mais dans ce cas-ci, l'origine officielle ne fonctionne pas.
Mais c'est ça, puis ça illustre quelque chose
d'extraordinaire. Elle fonctionne, mais il meurt à la fin. Donc, est-ce que The Killing Joke, l'histoire de The Killing Joke, se passe du début à la fin dans la totalité du spectre des aventures de Batman?
Ah oui, c'est vrai.
C'est possible aussi.
Mais c'est ça qui fait que c'est une belle interprétation, c'est que pendant 20 ans et plus, 25 je pense, ce livre-là a été lu d'une manière, et là, récemment, il y a une personne d'autorité qui décide de présenter son interprétation qu'en est une autre. Immédiatement, ce livre-là
décule. Et les fans ont signé.
Ben, exactement.
Les fans ont signé.
Ils ont fait, ah ben là, on croit plus à on croit plus l'interprétation publique parce qu'on croit à la mort.
D'ailleurs, je vous fais un rapide divulgacheux en ce qui concerne les films de DC à venir. Il faut dire que tout a été... je pense que presque tout a été dit par rapport à ça. Vous savez sans doute, donc, qu'il va y avoir une apparition de Joker dans Suicide Squad. Et tout semble dire que le Joker de cet univers-là est Robin lui-même. Il y a cette idée d'un Robin rendu complètement fou qui s'oppose à Batman. Évidemment, les gens crient au scandale, mais il y a dans tout ça une interprétation très intéressante à faire d'un monde parallèle de Batman et de Robin.
Les comics l'ont déjà supposé.
Absolument.
Donc je ne vois pas en quoi
Et même le dessin animé, de Batman Beyond a proposé exactement la même prémisse.
C'est complètement ça. Return of the Joker, c'est totalement cette problématique-là. Robin a été rendu fou par le Joker et devient un nouveau Joker qui va affronter Terry McGinnis dans le
monde.
Donc le canon est changé ici. C'est le canon étendu. L'univers cinématographique de DC n'est pas relié au canon des bandes dessinées.
Mais là, si on prend tous ces événements diégétiques-là en considération, on se retrouve avec un Memory Delta, c'est ça que tu disais?
Oui, absolument.
Et là, le Memory Delta sert une narrative très particulière quand le Memory Alpha prend pas du tout ça en considération.
Absolument. Peut-être parce que Star Trek fonctionne sous le couvert d'une fédération qui a une certaine fluidité dans la façon avec laquelle tu peux faire l'évaluation du canon. Et peut-être parce que les enjeux dans Star Wars concernent essentiellement un empire.
Ouais.
Il est géré tel un empire, cet univers de geek. Et conséquemment, le canon est beaucoup, beaucoup plus sévère. Il y a eu plusieurs définitions, d'ailleurs, de comment le canon devait opérer. Il fut une époque où il était question purement et simplement de considérer que Lucas et ce qu'il dit est le canon absolu. Et Lucas, de dire ouvertement, ben moi, c'est les films, point. Ben non, ça ne fonctionne absolument pas parce qu'il y a plein des éléments qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent de livres, de sourcebook, de séries télé, qui ont été par la suite réintronisés dans le canon filmique. Donc, c'est pas aussi simple que ça.
Et que les canons filmiques, entre eux autres, ont des paradoxes qui ont été en masse soulignés par Patton Oswalt.
Et j'ai envie de lancer l'idée, en particulier pour Star Wars, que l'œuvre devient canonique à partir du moment où l'œuvre est trop grande pour elle-même. Devient trop grande pour rester cantonnée dans sa propre...
Que tu ne peux... S'il n'y a plus la possibilité d'établir un timeline précis, on fait « Ah non, mais là, tout est canonique, là, on va se donner un mal de tête complet et total. » Je suis d'accord avec ça, étant donné que maintenant, il y a un changement de paradigme. Il a été dit, donc, maintenant, ce qui sera canonique de façon absolue dans l'univers de Star Wars, ce seront les films, les séries animées qui sont sorties ces derniers temps. Même là, et on y reviendra à l'émission, ça ne fonctionne pas. Il y a des il y a des entourloupes et des petits coins noirs que s'il n'y a pas des gardes chiomes pour les vérifier, ça va invalider cette volonté-là. Par contre, Jean-Michel, tu me parlais aujourd'hui que même Lucas, sa propre continuité, sa propre notion de canonicité de l'univers de Star Trek, de Star Wars, est en train de lui échapper complètement.
Ben, en fait, mon introduction par rapport à cette partie-là, puis je prendrai vraiment pas beaucoup de temps, là, mais on va avoir beaucoup de plaisir par rapport à ça. Est-ce que vous le saviez qu'il y a un sceau, le sceau JWF, pour George Walton Lucas, qui est le sceau officiel de la continuité. Donc, il y a comme potentiellement une grosse estampe dorée avec GWF. Ouais. Et tout ce qui est estampé GWF a le sceau d'approbation canonique de George Lucas. Moi, quand je l'ai appris, j'étais très surpris.
Moi, j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui que ce qui n'a pas ce sceau-là, donc toutes les histoires de Star Wars considérées désormais non canoniques, vont recevoir le sceau, le label de Legends of Star Wars.
Papé.
Donc, ceux-ci sont des suppositions légendaires et ça ne fait pas partie du canon.
Un autre, c'est super intéressant parce que, bon, ça nous passe un énorme débat par rapport à J.J. Abrams et son obsession à continuellement créer des univers parallèles. un autre truc qui, en fait, je veux parler de Leland Chee. Je veux vraiment parler.
Mais qui donc est ce Leland Chee?
Ben, c'est que Leland Chee, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui a une occupation immense. Est-ce que tu sais c'est qui Leland Chee?
Non, pas du tout.
Aucune idée c'est qui Leland Chee.
Non plus. Non, ça, c'est...
Leland Chee, c'est un individu au nom de Leland Chee qui œuvre comme Continuity Database Administrator à LucasArts. Donc, essentiellement, c'est l'homme, l'individu...
Le fucking dream job de 100 milliers de geeks en ce moment.
C'est le gestionnaire d'une base de données qui est essentiellement contenue sur un FileMaker avec au-delà de 30 000 entrées qui vient recenser tout personnage, planète, vaisseau, arme, événement de l'univers de Star Wars.
Est-ce que tu me permets une légère aparté par rapport à ça?
Je t'écoute.
La banque de données Wikipédia de Star Wars, qui s'appelle Wikipédia, est probablement une des plus extensives, une des plus complètes, une des plus fascinantes au monde. Quand on se met à fréquenter Wikipédia, on peut se perdre pendant 4 heures de lecture en disant « Bordel, ça s'est rendu jusque-là ». Et en ce moment, Wikipédia est déchiré en deux. Il y a une scission qui se fait parce que plus personne sait les informations qui sont là, où il faut les mettre. Donc, il y a plusieurs mentions... Ce texte nécessite évaluation parce que Lucas ne s'est pas encore prononcé.
Ben en fait, parce que Chi est très, très, très critique de Wikipédia.
Chi, le nom officiel chinois du Life Force.
Oui, exactement. Ouais. Hey, quand même. Hein? Mais c'est C-H-E-E pour les gens qui voudraient aller investiguer. J'ai pratiquement le goût de sauter un peu dans la linéarité de mon argument pour parler du Endor Holocaust. Est-ce que vous avez entendu parler du Endor Holocaust?
Là, on parle de la lune d'Andor, ouais. Là, où il y a eu les aventures avec les Ewoks.
Ouais. Okay. Parce que quand on a commencé à parler de cette faille qui se trace dans le Wikipédia, je me suis dit que t'étais pour commencer à parler de l'Holocauste d'Andor.
Même pas!
Je vais vous raconter rapidement. Il s'est passé quelque chose autour d'un individu qui s'appelle Curtis Saxton, qui Curtis Saxton n'étant pas un auteur, est un scientifique, il a... un scientifique en Angleterre pour le Mueller Space Science Laboratory. Il est allé poster sur Force.net, qui est une grande source pour Wikipédia, des détails de physique qui postulent un événement qui s'appelle le Endor Holocaust. Rapidement, qu'est-ce qu'il dit? C'est que lors de la destruction de la deuxième étoile de la mort, il y aurait eu, de ses propres calculs, 2,4 fois 10 à la 32 joules d'énergie découlée, collatérale par rapport à cette explosion-là. Cette énergie-là est assez pour détruire la Lune d'Andor. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'il postule? C'est que la destruction de la deuxième étoile de la mort a aussi tué tous les Ewoks. Et que les rebelles, en voulant faire une action de libération, ont aussi cassé des œufs avec leur omelette.
Mais c'est exactement ce qu'on dit souvent lorsqu'on parle de la destruction de la première étoile de la mort dans le quatrième film. En fait, c'est ça, c'est de se dire, oui, OK, t'as détruit l'étoile de la mort où il y avait plein de militaires et tout ça, mais où il y avait probablement des fonctionnaires, des gens qui étaient là pour la conciergerie ou pour tout ce qui fait qu'on doit fonctionner sur un vaisseau, là. Mm-hmm. Et pourtant, la personne qui taillissait le plus, c'est Darth Vader, puis elle s'est sauvée. Fait que t'as vraiment pas si réussi que ça. T'as sauvé la... Non, mais t'sais...
Non, mais c'est vrai. Absolument. Ta cible, tu l'as un peu manqué, puis t'as tué un nombre incalculable
d'innocents. En fait, c'est assez fascinant de... C'est vraiment un aspect qui est important, je trouve, que tu as souligné dans l'univers de Star Wars. C'est que le but ultime de ce pourquoi cette fameuse contraption qui est l'Étoile de la Mort a été construite, l'oblitération d'une planète au complet, c'est ce que les rebelles ont fait subir à la planète au complet. Là, on sait qu'il y a assez de personnes pour considérer que c'est un planétoïde et non pas un vaisseau spatial. Mm-hmm. Et c'est un acte presque génocidaire qui est fait, qui rappelle un peu essentiellement le revirement de situation du Rwanda.
Mais c'est ça, mais là on parle d'un holocauste, parce qu'il y a destruction et annihilation totale d'une race de petits toutous poilus adorables.
Mais ça fonctionne pas, parce qu'à la fin du film, ils sont sur Andorre.
Et voilà. Et v'là le paradoxe, et v'là la grande scission qui est en train de s'opérer, qui s'est opérée parce que c'est pas arrivé hier, cette histoire-là, Chi contre Saxton, que non, la science dit ça. Et là on se retrouve avec quelque chose de très intéressant, parce que c'est pas de la fanfiction, là, c'est la science.
Si j'étais Chi... J'aurais dit très spontanément que les notions de physique élémentaire ne fonctionnent pas de la même façon.
Il y a du son dans l'espace dans Star Wars. C'est exactement en partant, ça peut pas fonctionner.
Ben, voyez comment est-ce que vous faites opérer votre machine interprétative pour être capable de faire plier les règles ici. Absolument. Ça, c'est quand même intéressant comme réflexe. Là. Vous êtes tout de suite mis dans un espèce de système de défense de comme, non, il faut que ça fonctionne de même. Mais c'est essentiellement ça que Chi doit faire dans sa job de tous les jours, parce que... je prends comme exemple, en 1998, Industrial Light and Magic a fait créer un CD-ROM qui s'appelait Behind the Magic. Et essentiellement, dans Behind the Magic, c'est Chi qui en était responsable, il a, à force de fouiller dans le matériel d'archive, découvert qu'il y avait des énormes problèmes dans la continuité. Notamment un duquel Francis et moi on a parlé tantôt sur le coin de la rue, le fait que le Millennium Falcon de A New Hope et le Millennium Falcon de Empire Strikes Back n'est pas le même. Quand lui, il a monté le CD-ROM Behind the Magic, il a réalisé ça, et il a eu à écrire un pont, si on peut dire. T'sais, il y a eu à réparer narrativement cette histoire-là en disant « post Alderaan, après les médailles, tout est correct. » Je pense pas que c'est Alderaan, mais whatever. Tout de suite après les médailles, Han Solo s'est mis à retravailler le Millennium Falcon parce qu'il était maintenant officiellement un rebelle. On fait ce travail-là par rapport à la continuité.
Ouais.
C'est ça, c'est que c'est un processus mental, c'est un processus de création et aussi d'ordre interne. La continuité sert à ça aussi. C'est qu'un individu doit être capable de combler ses failles.
Et si je peux me permettre, on parlait... peut-être que je vais rentrer dans un trop gros sujet, là, mais on parlait tout à l'heure...
Il n'y a pas de trop gros sujet pour toi,
Il y avait une question tantôt qui avait été posée. Est-ce que le canon de Star Wars se simplifie ou se complexifie? Ou tu sais, qu'est-ce qui se passe avec la culture?
Et tu avais dit de façon fascinante qu'il se...
Déphilosophie.
Oui, moi, je suis entièrement d'accord. Parce que... En accord avec ce que dit Jean-Michel et Monsieur donc Chi, et on parle quand même d'une refonte faite par J.J. Abrams qui a fait opérer, à mon humble avis, pour la franchise de Star Trek, une brillante notion d'univers parallèle. Moi, je trouve que c'est la grande réussite de ce Star Trek-là, de considérer que tous les possibles de Star Wars sont des univers parallèles fréquentables. C'est comme l'univers de DC Comics, par exemple. Considérer que Star Wars fonctionne dans un contexte qui est donc celui d'un multivers. Mm-hmm. C'est beaucoup plus intéressant parce que, justement, il y a plusieurs itérations de Luke Skywalker qui existent en même temps et qui peuvent peut-être même... Star Trek a réussi, ça semblait peu probable, mais les refontes de Star Trek ont réussi et qui peut même cohabiter et se rencontrer. Maintenant, on sait qu'il y a la possibilité dans l'univers de Star Trek de J.J. Abrams de faire que Chris Pine, on l'a vu, le Spock original joué par Leonard Nimoy, a la possibilité de rencontrer la nouvelle itération de Star Trek. brillant, absolument brillant. Et pourquoi ne pas faire ça avec Star Wars? Pourquoi il n'y aura pas la possibilité de faire ça avec Star Wars? Ça permet de philosopher encore plus sur la chose.
Effectivement, mais moi, ce qui me faisait... excuse-moi, Clément.
Non, vas-y, je t'en prie.
En fait, c'est surtout aussi la notion... quand je parlais de déphilosophie, c'est que quand on a tenté, par exemple, avec l'atrocité, je considère qu'il y a les midi-chloriens, c'est qu'on a tenté d'expliquer, on a tenté de rationaliser, en fait, ce qui, au départ, Star Wars, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre de je suis la représentation du bien, tu es la représentation du mal, et nous nous confrontons. Mm-hmm. C'est une histoire vieille comme le monde qu'on a représentée là-dedans, et où à la fin, dans le sixième épisode, on a un beau mélange que, dans le fond, l'élu pouvait avoir eu une période de d'être plus sombre et de se dire non, mais de toute façon vous m'avez nommé l'élu et je l'ai été jusqu'à, c'est juste que j'ai eu un petit écart de conduite, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est
la dernière tentation d'Anakin.
Exactement, mais c'est que c'était cette question là qui sont des questions philosophiques, qui sont des questions de la base de qu'est-ce qui forme les héros et tout ça. Je trouve que c'est ce qu'on perd.
Moi, ouais, elle était vaincue, ah ouais, à cause de...
Exactement.
Mais tu trouves pas, comme tu le proposais justement tout à l'heure, que tout ça est à voir en quelque part selon les opinions puis les principes générationnels que Star Wars peut générer?
Oui,
justement.
Effectivement.
L'idée que ton père aura pas vu le même Star Wars que toi, aura pas tout le bagage, oui, que toi tu vas accumuler, et ton frère, beaucoup plus jeune, aura beaucoup plus d'informations, parce que je pense qu'on écoute peut-être pas tous Clone Wars, mais une génération d'enfants qui, eux, apprennent tout ce qu'il y a à apprendre à propos de l'univers élargi.
Exactement. Mon petit frère a jamais vu un film en vraie personne de Star Wars. Je trouve que c'est complètement aberrant, mais bon, hein, c'est pas moi qui l'élève. Et mais moi, à son âge, je connaissais déjà tous les trois premiers épisodes par cœur. Mais bon, et lui, il connaît des choses. Écoute, il me dit, tu sais, tel personnage, je n'ai aucune idée de qui tu me parles. Ben, c'est comme...
Ben, c'est le avec les tentacules, là.
Ouais, mais c'est... Non, mais c'est ça, tu sais. Je me dis comme, non, je ne sais pas de qui tu me parles. Puis il me dit, ben, tu vois, je connais plus de choses que toi. Je suis un plus grand fan. Ben, c'est comme, tu sais pas c'est qui Luke puis Léa, fait que ta gueule.
Ouais, c'est un peu bizarre.
C'est bizarre parce qu'il y a 6 ans, puis je peux pas vraiment m'ostiner tant que ça, là, mais...
Ça va venir, laisse le temps passer.
Ouais, c'est ça.
Fais-toi un petit calepin, là, avec des comme, on va t'en voir plus tard, mon grand.
Clément, tu vas aller dire?
Il y a un duo qu'il ne faut pas négliger tout de même. C'est Lucas et Campbell. Joseph Campbell,
ouais.
Power of Myth.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Les deux hommes se connaissaient. Lucas respectait énormément Campbell. Et il aimait les théories de Campbell, il les chérissait. Et lorsqu'il a vu Star Wars pour la première fois, Joseph Campbell a dit: Lucas est parvenu à synthétiser l'essence du mythe héroïque. Il y a une notion mythologique au sens large et au sens campbellien dans, on va dire, dans une première génération de Star Wars, dans un premier culte, dans un premier canon de Star Wars, c'est de la mythologie.
Oui, c'est ça. Ouais,
donc, on déphilosophe et on démythologise, oui, Star Wars, mmh, en ce moment, en faisant éclater le canon et en le concentrant sur purement et simplement ce qui est en train de se jouer dans les prochains films qui vont venir.
Ouais, malgré ça, il y a un truc qui est vraiment intéressant. En entrevue, Jon Chu de la bande dessinée. Leland Chi a été confronté par rapport à l'autorité totale, parce que je reviens un peu par rapport à ce qu'on est en train de dire, cette idée-là qu'il est la personne qui a la clé de voûte, qui a la plus grande connaissance autour de Star Wars. Qu'est-ce qui était... en fait, qu'est-ce que ça représentait d'être capable de canoniser et décanoniser des trucs. Pardonnez-moi, là, je cherche un peu mes mots par rapport à ça. Et il a dit, c'est très intéressant, ça, évidemment, ça lui amène plein de conflits, mais il y a un truc qu'il ne sera jamais capable de dire, puis ça, je veux juste, c'est comme en bémol par rapport à la mystification, on ne saura jamais rien sur Yoda. On ne saura... Non, mais pas on ne sait rien. On ne saura jamais rien sur Yoda. On ne connaîtra pas le nom de sa race, on ne saura pas c'est quoi son histoire. C'est un... Tabula rasa total, et George Lucas le renforce.
Mais c'est nécessaire. Mm. C'est absolument nécessaire qu'il y ait un personnage qui reste comme ça.
Il y aura toujours le mystère de Yoda. Yoda,
le mystère et le non-dit fait partie du canon. Et à mon avis, par rapport à tout ce que tu dis, Jean-Michel, et par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un show comme Doctor Who a fêté ses 50 ans.
Oui.
Doctor Who fonctionne sur le même principe. Il est du devoir du showrunner d'arriver à expliquer, à expliquer ce que Dr. Who ne disait pas pour que la série revive, mm-hmm, en permanence et, ouais, pour que le docteur se régénère.
C'est le génie scénaristique,
c'est ça,
des
génie.
Gens qui ont créé ce personnage,
c'est
d'être, de trouver une méthode narrative de décontournement du canon.
Oui.
Et ça, c'est absolument brillant. Et je pense que J.J. Abrams, en grand créateur de télévision, a fait la même chose.
Mais c'est ça. Mais J.J. Abrams, c'est autant que tu vois, tu as parlé de Campbell, ça fait qu'on y va, là. Mais tu sais, il suit parfaitement bien la traduction qui a été. En fait, c'est Hugo Gernsback qui a vraiment dit. Gernsback, qui a encouragé très tôt dans sa vie d'auteur de science-fiction les fans à trouver les erreurs. Il a dit investiguer les failles, chercher les brèches dans l'histoire et remplissez-les de votre propre subjectivité.
Ben, tu vois, je vais faire un exercice de ce type, justement. Précisément de ce type. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des Warzies out there qui vont dire non, c'est erroné ce que tu es en train de dire. Mais pour illustrer la notion de, s'il vous plaît, sautez dans le wagon ou sur le banta proverbial de l'exercice de ce que je suis en train de faire comme exercice. Vous allez voir où je vais en venir. Lucas et Chu. Qui déclare tous les deux, donc, tel qu'on le dit, le canon, ce qui se passera dans l'univers de Star Wars à partir de maintenant, peu importe où, dans les comics de Marvel, vont former le vrai canon. Et que des éléments de ce qui est venu pré-nouveau canon peuvent être récupérés et réintégrés. Mais essentiellement, le canon, on disait, ce sont les films et ce sont les séries télé. Mm-hmm. Alors, on a un problème. Dans les années 90, il y a eu une franchise parallèle qui s'appelait Shadows of the Empires. Mm-hmm. Donc, sous forme de roman, sous forme de jeux vidéo que moi, j'affectionnais tout particulièrement, et sous forme de comic. On y voyait, entre autres, le personnage donc du mafieux intergalactique Zixer, qui était la figure du mal, qui fonctionnait un peu comme une espèce de Iago shakespearien entre... Donc, finalement, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a un mot pour ça, je l'ai appris, un interquel. Donc, une histoire qui est entre deux histoires dans une franchise qu'on n'a pas vue. Donc, dans cette idée de Shadows of the Empire, il y a le fait que des personnages ont posé des gestes que nous n'avons jamais vu donc dans les récits canoniques, mais qui ont modifié l'histoire, donc du monde en parallèle. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'un chasseur de primes encore plus baveux, encore plus efficace, encore plus amoral que Han Solo, qui s'appelle Dash Rendar dans cette fameuse franchise. Et lorsqu'on regarde la version de Star Wars A New Hope avec les nouveaux effets spéciaux qu'a fait donc George Lucas à cette époque, le vaisseau de Dash Rendar est vu de façon très précise et évidente décoller de la cantine de Mos Eisley. Alors, là, on a un problème. Parce que ça veut dire qu'une franchise créée dans les années 90 qui est parallèle est encore canonique. Mais pourtant, ils disent l'effacer. Ils disent que les jeux, ils disent que les bandes dessinées et que les romans fonctionnent plus. Ben, Shadows of the Empire est dans les films, au détour d'une scène qui est peut-être référentielle, mais qui vous force à réévaluer la part canonique de cette fameuse scène-là. Il y en a plein d'exemples comme ça.
Le Holiday Special, avec la première apparition de Boba Fett, où ils disent le Holiday Special n'existe pas.
Là, on rentre dans le semi-canonique. C'est encore plus mal de tête. Et encore plus... Là, dans ce cas-ci, on a un exemple qui est typiquement canonique et qui n'est pas argumentable. Il a été supervisé par Lucas. C'est juste que le bonhomme est probablement complètement sénile. Et s'il s'en rappellerait, il se dirait « Oh mon Dieu, dans les années 90, on a fait des jeux, hein, puis les personnages, on les voit pas dans Star Wars, mais par contre, on voit le Christie de vaisseau. On voit le vaisseau de Dash Rendar, donc ça marche pas. Mm-hmm. » Star Trek a droit au même cas, encore, J.J. Abrams a eu droit un peu au même genre de situation. Avant que le film sorte, avant que le nouveau film de Star Trek sorte, il y a eu une série de 4 bandes dessinées publiées par IDW qui s'appelait Countdown to Star Trek. Alors, là où cette bande dessinée devient un cas d'espèce, un cas particulièrement intéressant, c'est qu'il se passait dans l'univers de Star Trek consensuel que tout le monde connaît. On y voyait donc l'équipage de Star Trek Next Generation et Spock, qui est encore vivant à cette époque-là. On se rappellera que dans le film de J.J. Abrams, une faille spatio-temporelle fait que le Spock original se retrouve balancé dans un univers de monde possible, dans un univers parallèle. Alors, si tout ça est canonique et salé de façon non débattable, nous voyons la dernière manifestation du véritable univers de Star Trek dans les pages de ce comic. On apprend que Data est le nouveau capitaine de l'Enterprise, que Worf meurt et que la planète Romulus, donc où tous les Romulans habitent, n'existe plus et qu'il ne reste qu'une poignée donc de ces individus. De même que, de façon un peu miroitée, il ne reste que dans l'univers parallèle une poignée de Vulcains. qui ont survécu. Donc, évidemment, les deux tragédies, les deux drames sont similaires dans un univers et l'autre. Mais pour l'instant, les seules véritables manifestations canoniques de l'univers de Star Trek que tout le monde a suivi et écouté depuis 40 ans existent dans les pages d'un comic. Alors, je vous fais pas dire comment les fans de Star Trek ne sont pas d'accord avec ça. Les fans de Star Trek ne cessent de débattre et d'argumenter que ce qui se passe dans ce comic ne peut pas être canonique. Et il y a des discussions sur des forums absolument épanchés. Mais attends une minute, ça se peut pas. Parce que dans les trois derniers films de Star Trek Next Generation, on apprend que Data meurt. Et on apprend qu'il a un frère qui s'appelle Before. Et que sa conscience, peut-être, sera transférée d'un corps à l'autre. Donc, est-ce que le capitaine de l'Enterprise, dans le comic de Countdown, est Data dans le corps de Before? Tout ça est-il qu'on a un cas où le canon a continué à l'insu de la plupart des trekkers qui ne liront jamais de comics.
Mm-hmm. Puis c'est là où je pense qu'on peut revenir à ta trigénérationnalité par rapport à Star Wars, cette idée-là que la connaissance de Star Wars de ton père est un canon, ta connaissance personnelle est un autre canon, et celle de ton frère est un autre canon, qui sont inconjugables. Vous avez trois interprétations qui sont totalement...
Exactement. Il y a l'interprétation, mais aussi l'émotivité qui est reliée à cet univers-là. Ces sentiments-là, je veux dire, c'est sûr que mon père adolescent et moi enfant et mon petit frère enfant, on n'a pas vu les mêmes choses. On n'a pas ressenti les mêmes choses.
Pas dans le même climat. Exactement. Pas dans le même... Mais non, c'est ça.
Ben, vous l'avez dit, l'exemple type de ça, c'est d'une génération à l'autre, Anne ou Greedo vont tirer le premier.
Ouais, c'est ça, ça ne doit pas... Il n'y a aucun doute dans l'esprit de ton père. Il y a... Aucun peut-être doute. Un doute dans le tien, puis il n'y a, tout de doute dans celui de ton frère, parce qu'il ne sait même pas c'est quoi.
Non, c'est ça. Mais il n'y en avait pas dans le mien, parce que il me semble que dans la VHS de 90...
La noire ou la dorée? C'est la noire, toi.
Oui.
C'est ça, parce que le coffret doré, lui, a été rectifié. Hey,
ouais.
C'est bizarre que je rende point virgule de même.
C'était la noire.
C'était la noire avec les grosses faces, mauve, vert et bleu. Oui.
Exactement.
Yes.
C'est ça le paradoxe même du canon. C'est qu'il y a un côté sacré et on ne touche pas au sacré sous peine de punition divine. Mais pourtant, si tu veux que ça continue, il faut défier le canon.
Il faut
l'entretenir.
Il faut que tu traînes.
Oui, c'est obligé de toucher au canon.
Mais Lucas, c'est drôle parce que tu dis sous punition divine. Lucas est à la fois le demiurge et à la fois l'être qui doit être puni.
Oui,
c'est vrai.
Écoute, moi, j'ai un collègue qui a émis l'hypothèse sur Lucas, qui dit « Ok, Lucas... » Il a créé une machine de rêve. Il a été un vendeur de rêve. Et tout d'un coup, il a voulu lui-même peut-être se réveiller de son propre monde onirique au risque de fâcher ses plus fidèles adeptes.
Ce qu'il a fait.
Ce qu'il a fait.
Oui, à plat de couture.
Probablement parce que Lucas, justement, gère un empire, figure absolue du mal dans son propre canon. Et Star Trek, comme je le disais tout à l'heure, gère une fédération. Donc, il faut être inclusif dans une fédération. Plusieurs nouvelles espèces vont collaborer. Donc, plusieurs canons peuvent collaborer. Ce qui m'amène à un autre exemple que moi, je trouve fascinant, c'est le semi-canonique. Et le semi-canonique, généralement, peut accéder au statut de canonisation par la volonté des fans qui font pression.
Oui.
Par exemple. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a un effet de Schrödinger narratif, quelque part. En ce moment, il a été dit par fameux Chi que c'est là où se trouve en ce moment Boba Fett. Boba Fett est à la fois, pour toujours, dans le Pit of Sarlacc, mort, mais d'un autre côté, il attend de sortir d'une minute à l'autre. Là où il faut vraiment voir comment les mondes possibles fonctionnent, c'est en se rappelant que pour l'éternité, Boba Fett est mort et vivant en même temps dans The Pit of Sarlacc.
Ouais.
C'est un effet narratif de Schrödinger. Alors, ça m'emmène au dessin animé. Il y a une série animée pour Star Trek. Il y a eu aussi plusieurs séries animées pour Star Wars, mais un moment animé qui est très important. En général, est désavoué de la canonicité, le fameux est terrible et fascinant à la fois. Star Wars Holiday Special.
Okay, oui.
Lucas voudrait absolument que chacune des copies soit détruite. On le sait, il a fait la déclaration. Or, tout le monde a été forcé de réévaluer la dite canonicité du Star Wars Holiday Special parce qu'il y a une pléthore de références à ce fameux téléfilm qui ont été faits par plein de créateurs et qui ont d'ailleurs maintenant le look avec des bungalows dans les arbres de la planète Kashyyyk des fameux Wookiees est pas mal devenu canonique. Ils vivent pas mal dans des bungalows dans les arbres. Là, ça devient intéressant, c'est que c'est la première apparition canonique du fameux Boba Fett, justement. C'est intéressant. Boba Fett, avant même d'être dans les films, avant même d'être incarné par un comédien, a une apparition canonique dans ce qui est considéré d'ailleurs comme le meilleur passage de Star Wars The Lady Special. Là où ça devient intéressant, c'est que les fans se prononcent. Oui, c'est de la merde, confite, de long en large. Mais le segment animé est absolument exceptionnel et on ne voudrait pas que se perde dans l'éther la première apparition de Boba Fett. Donc,
sauvons une fraction.
Absolument.
De ce...
Donc, pour cette raison, le Star Wars The Lady Special est considéré, à l'époque, était considéré comme semi-canonique. Maintenant, on n'a pas le choix de dire qu'il est absolument. Ouais. Or, la refonte.
Canonique.
Voilà. Or, la refonte de Star Wars fait que ça marche plus.
Et même en termes de parodie et de relecture, de la même façon que Jean-Michel et moi nous assumions il y a 15 jours d'avoir vu Minions, je voudrais assumer, moi, regarder le show de Disney, Phineas and Ferb.
Bon, mais ça, il n'y a aucune honte là-dedans. Non, c'est super bon, Phineas and Ferb.
Eh bien, dans un long métrage et un long épisode qui a été diffusé à Noël, me semble-t-il d'ailleurs, comme de par hasard.
Voyons voir si, parce que j'ai vu le spécial Noël.
Il y a eu une... Alors, je ne sais plus si c'est le spécial Noël, mais l'épisode, tu vas peut-être t'en rappeler, où ils sont dans Star Wars, où ils reprennent complètement le... En fait, l'univers Star Wars actuel par Disney rejoint celui de Phineas and Ferb, et donc tu... Et donc, en fait, ils se retrouvent à croiser R2-D2, le professeur Doofenshmirtz joue le rôle de Vador.
Donc,
voilà, on est complètement dans le crossover, un crossover totalement permis par Disney, puisque Star Wars est Disney.
Toutes les propriétés intellectuelles...
C'est ça. Rappelons qu'à mesure que le monolithe corporatif qui gère tout ça est en train de se poser, que nous sommes maintenant à des yotas qui permettraient la rencontre de personnages de Marvel et de Star Wars. On n'est pas loin. Guardians of the Galaxy, un Cosmic Cube qui traîne en quelque part.
Non, tu peux pas, parce que ça se passe il y a vraiment, 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 vraiment longtemps.
Mais c'est jamais un problème, ça, quand on fait l'abolition de la notion d'espace-temps. C'est pas un time frame qui est le même.
C'est vrai, mais...
Et aussi, tu sais, a long, long time ago, ça prend pas en considération notre temporalité, ça prend en considération la temporalité de le Galaxy Far, Far Away.
Oui, absolument.
Ça peut se passer exactement en même temps, d'où la théorie de Legend.
Saviez-vous, par exemple...
Que Legend et Star Wars, c'est la même affaire.
Ça va être un peu...
Legend, le film avec Tom Cruise?
Oui. C'est-tu Legend? C'est Legend ou Willow?
Ah non, ça, cette théorie-là, c'est Willow.
C'est Willow, pardon.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que... C'est que Willow est un film qui est essentiellement écrit par George Lucas. Ouais. Par la suite, il y aura même eu une suite sous forme de roman de Willow qui aura été publiée et co-écrite par l'auteur de bande dessinée Chris Claremont. Là où ça devient...
Qui a écrit X-Men contre Star Trek?
Non.
Non?
Non, pas du tout, malheureusement.
Je vais faire des corrections.
Pas malheureusement. Non, mais bon, t'es proche. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, ce que tu soulèves, c'est que... Les fans auront postulé, et ce sera malheureusement jamais dit par Lucas, mais ça sera accepté de toute pièce par Chris Claremont, que l'univers de Willow est essentiellement l'antiquité de l'univers de Star Wars. Alors, on n'est pas dans l'univers humain, on est dans l'équivalent d'un Lord of the Rings, d'un monde féodal, à qui on aurait donné le temps d'accéder à sa propre science-fiction, à son propre futur, mais qui aurait évolué totalement parallèlement. Alors, si on regarde l'univers de Willow, on remarquera que les bases très campbelliennes sont absolument les mêmes de A à Z que le premier Star Wars. Par exemple, le héros est un simple fermier qui aspire à l'énergie magique. Même son nom.
Non, c'est ça.
Même son nom. Regarde, on a Luke Skywalker, celui qui marche dans le ciel. Et on a Willow of Good. On a littéralement le soul du bien. Donc, on a la figure même du bien. Mm. On a le héros rébarbatif, récalcitrant, dont le nom est son adjectif, l'adjectif de son tempérament. On a Han Solo. Moi, je travaille tout seul. Évidemment, j'ai un sidekick, là, mais je travaille tout seul. Et d'un autre côté, on a Mad Martigan. Moi, je travaille pour personne, je suis avec personne, je suis pas avec l'Empire, je vais au plus offrant, et les deux personnages ont définitivement un charisme et une approche qui est similaire. On va s'entendre là-dessus. Bav Morda et l'Empereur ont exactement les mêmes formes d'énergie. Une espèce de lancement d'éclairs pourpres, figure absolue du mal. On aura aussi les deux sidekicks, humoristiques, avec C3PO évidemment et R2D2. On aura les fameux brownies, les deux petits individus qui ressemblent à des gnomes, qui servent essentiellement à être le support humoristique du film, mais quand il est temps d'aller chercher une clé ou d'ouvrir une porte, c'est crissement pratique de les avoir avec toi. Donc, au niveau du schéma narratif, c'est exactement la même chose, mais dans Moon Shadow, je pense que c'est Moon Dragon,
non,
le titre
Shadow,
du roman.
De Cat Stevens.
Je pense que c'est le tout du roman. Il y a un passage où est expliqué la façon avec laquelle la magie fonctionne, et c'est en tout point la situation de ce qu'est la force, que c'est une énergie qui nous traverse tous, que certains ont les capacités d'aller la contrôler, d'aller la concentrer. Regarder Willow, selon moi, c'est regarder l'antépisode le plus éloigné qu'on peut regarder de Star Wars.
C'est fascinant, puis ça encore, ça vient participer à cette idée-là qu'en tant que lecteur, en tant que fan, en tant qu'auditeur, on complète les trous.
Absolument.
On regarde ces trucs-là, puis on se dit, tu sais, il y a une explication assez farfelue, mais fascinante, du fait que E.T. a la force. En fait, le fait que E.T. soit capable de flotter avec son vélo, c'est qu'il a la force.
Elle est prouvée.
C'est pour ça que quand il voit Yoda, il fait comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? »
Exactement.
Je pense que tout le monde a été mind-blown par cette image-là, mais à partir du moment où dans The Phantom Menace ou Attack of the Clones...
C'est Phantom Menace.
Phantom Menace. Mm-hmm. À partir du moment où on voit dans le conseil, des races... On voit clairement un groupe de E.T. D'ailleurs, le nom de cette race-là, c'est Spielberg à l'envers.
Oh!
Purement et simplement.
Ma parole.
Purement et simplement.
L'émission vient d'avoir sa justification totale. Point. Tout individu doit écouter cette émission-là pour cette
Mais l'idée qu'effectivement, E.T. semble reconnaître le petit garçon qui est déguisé en Yoda prouve qu'effectivement, il y a la possibilité chez les E.T. qu'il y ait des Jedi. Donc évidemment, mais non, relaxez les gars, c'est des clins d'œil dans un film. Non, tout ça fait que des centaines de milliers de fans vont théoriser et exiger canonicité. Et faut écouter le fan quand il exige canonicité.
Mais je me demande, écoute, je dis ça, j'ai aucune assise sur ce que je vais dire. Mais tu sais, du moment où t'as un homme...
Non plus.
Du moment où t'as un homme comme Isaac Asimov qui décide que toute son œuvre doit avoir un lien, est-ce que ça développe pas l'espèce de... Et si tout ça était tellement grand que ça avait tout été pensé ou que c'était... c'était donc brillant depuis le début, c'était donc plus grand, un peu comme quand on essaie de faire du sens, d'avoir du sens entre toutes les œuvres de Pixar ensemble et tout ça, cette espèce d'obsession là pour la grandiosité d'un univers immense et voilà, c'est tout.
Oui, absolument, mais ça participe à ça, c'est cette espèce d'hyper enthousiasme par rapport à la fiction.
Par exemple, en se donnant une énergie monumentale, Stephen King a interrelié la totalité de son œuvre. Ce à quoi il accède, à mon humble avis, alors que tu pourrais dire, son œuvre horrifique est magnifique, qu'elle soit morcelée ou qu'elle soit reliée. C'est pas particulièrement important. Et je suis d'accord avec cette affirmation-là, d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout d'un coup, Stephen King, au 20e siècle, devient le plus grand architecte de la question du mal en littérature. C'est que toutes les différentes formes de manifestations horrifiques, allant de la plus gigantesque créature lovecraftienne à la ménagère qui aime les romans d'horreur et qui va couper les jambes d'un auteur, tout ça appartient à une notion immense, pleine de pulsations du mal qui a plusieurs incarnations. Ouais. Et au centre de ça, un seul et unique personnage qui provient d'un roman de Stephen King et qui est cet anneau qui les régit tous, finalement, qui est cette figure du mal... ultime, desquelles toutes les autres figures du mal découlent. Même la plus petite manifestation de gestes mauvais fait par un être humain a une corrélation monumentale avec un mal cosmique et lovecraftien dans l'œuvre de Stephen King. Donc là, tout d'un coup, ça prend une ampleur profondément mythique, cet univers. Un peu plus que si c'était une série de romans non interreliés.
Oui, c'est ça, mais ça, encore, c'est le canon qui, comme force passive, se fait aller à travers les lecteurs, des gens qui veulent un ordre, des gens qui veulent une explication, des gens qui veulent...
Exiger canon d'une œuvre, finalement, c'est exiger sa religiosité.
Non, mais c'est aussi exiger d'être capable de totalement régler toutes les inconsistances et d'y habiter.
Absolument.
C'est de dire, si je veux habiter cet univers-là, je dois être capable d'être 100% certain qu'elle fonctionne.
Il y a un exemple précis de ça, de semi-canonicité qui a accédé à la canonicité, qui est fascinant dans l'univers de Star Trek. Star Trek a eu droit à un dessin animé. Les voix des dessins animés étaient faites par les comédiens principaux et les plus bons épisodes de cette série animée étaient écrits par les scénaristes de la série originale. Mais il était dit que de façon canonique, ça pouvait pas être équivalent. C'était pas une véritable saison de Star Trek. Alors, là, c'est devenu problématique parce que dans cette saison de Star Trek, on entend pour la première fois le fameux Beam Me Up Scotty, qui a jamais été dans la série et qui est depuis devenu l'apanage un peu de tous les fans de Star Trek. Ils le disent toutes, cette ligne-là. Ensuite, le nom de James Tiberius, le T pour Tiberius Kirk, vient aussi de la série animée. Tout ça, c'est des exemples intéressants. On fait, ben, c'est correct. Les gens ont manifesté leur intérêt pour le dessin animé, donc ils vont grappiller des éléments et ils les recanonisent. Et ou du moins, ils les canonisent pour la première fois. Là où il y a un cas intéressant, c'est qu'un épisode écrit donc par la fameuse scénariste, la plus grande écrivaine de Star Trek de tous les temps, DC Fontana. DC Fontana écrit un épisode qui s'appelle Yesteryear, où, à cause d'une faille spatio-temporelle qui s'appelle The Guardians of Forever, ça vient de la planète, ça vient de l'épisode de Star Trek qui est considéré comme pas mal le meilleur, de City on the Edge of Forever. Essentiellement, c'est pas compliqué, c'est un trou carton-pâte avec un écran. Quand on passe dans l'écran, dans le trou en carton-pâte à travers l'écran, on peut se retrouver dans n'importe quel time frame au désir même de cette entité, de cette intelligence artificielle qui est un trou dans l'espace-temps.
C'est Heinlein qui l'a écrit cela, hein, c'est ça?
C'est Harlan Ellison.
Harlan Ellison.
C'est Harlan Ellison. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans cet épisode, Yesteryear, qui est une suite presque directe à City on the Edge of Forever, écrit aussi par, co-scénarisé par DC Fontana, Spock tombe dans le trou et l'univers de Star Trek au complet est changé dans un monde où Spock n'existe pas, où il est remplacé par un autre extraterrestre. Là où c'est intéressant, c'est que Spock se retrouve aussi dans le passé, à incarner son propre oncle. Et où il aide John Spock sur la planète Vulcan à passer à travers un rite de passage qui a rapport avec la mort et l'évolution. Alors, le dessin animé qui est considéré non canonique, cet épisode a tellement marqué qu'on y retrouve des références absolument partout. Donc, dans les épisodes de Star Trek, le look de la planète de Vulcan a été upgradé pour ressembler à celui du dessin animé. The Forge, la fameuse The Forge, il y a un épisode au complet de Star Trek Enterprise qui y fait référence. Et le dernier film de J.J. Abrams reprend les lignes et reprend même la même prémisse. Il est question d'un Spock d'un univers parallèle qui explique à un Spock plus jeune ce qui va se passer et comment se soutirer d'une situation. Ouais. Alors quand on regarde Yesteryear, le dessin animé, et quand on regarde le nouvel univers de J.J. Abrams, nous est suggéré que Spock sera régulièrement coincé dans des singularités spatio-temporelles où il s'explique à lui-même comment sortir de cette situation-là.
Donc Spock est un paradoxe spatio-temporel comme ambulant. Là.
Dans plein d'univers parallèles.
Ça pas,
là. Alors, où ça devient intéressant, c'est que il n'y a plus la possibilité de dire que le dessin animé est semi-canonique. Parce qu'il est canonique dans deux univers. Il est canonique dans deux interprétations de l'univers de Star Trek. Fait que depuis, Universal, Paramount s'est dit « Bon, OK, c'est officiel. » Tout ça est canonique. Ne serait-ce que parce que les situations sont même... Ça pourrait être purement et simplement de la référence. Mais là, ça va plus loin que ça. C'est plus que de l'emprunt. C'est littéralement des résonances qu'on retrouve d'une série animée à la série télé et au film. D'ailleurs, on remarquera que c'est fort souvent dans des franchises qui ont trois déclinaisons comme ça. Donc télé, dessin animé et cinéma, que ce genre de situation-là devient compliqué à gérer, le canon.
Batman DS, c'est, c'est l'exemple type du côté DC Comics. Pour moi, Batman The Animated Series est canonique parce qu'elle a apporté
Harley Quinn. Absolument.
Elle a apporté sa loi, sa patte sur l'univers de Batman, et Batman ne serait pas Batman sans Harley Quinn.
Un des rares personnages ajoutés d'ailleurs, dans les dernières décennies, provenant de l'extérieur.
Oui, parce que Phantasm n'a pas fait le saut de façon aussi unilatérale.
Non, mais étrangement, il y a aussi le personnage de René Montoya, qui provient de l'univers animé. Donc, c'est dire à quel point l'univers animé de Batman a changé l'imaginaire qu'on se fait du personnage au grand complet. et au point où le prochain film dans lequel il y aura Batman, ou plutôt le prochain film dans lequel il y aura Joker, Harley Quinn s'y retrouve.
Ouais.
Et il comment ça fonctionne au niveau des sous, ça. Je me demande si les gens qui ont travaillé dernier à Batman Adventures vont recevoir un petit royalty.
Mais c'est drôle parce que tout ça me revient, toute cette discussion-là par rapport à la volonté de faire sens et ainsi de suite, ou aussi la continuité populaire démocratique, ça fait en sorte que puisque les gens veulent faire du sens, quand il y a des trucs dans Star Wars notamment qui ne font pas de sens, on fustige. Parce que les canons se rencontrent, créent des paradoxes qui sont irrésoluble, puis c'est là où il y a véritablement où la haine émerge. Là.
Ah ben absolument, mais il y a des haines en ce moment qui...
On tombe du côté obscur.
J'étais comme...
Il y a deux haines en ce moment par rapport à l'oblitération du canon de Star Wars qui reviennent beaucoup. En éliminant ce que les fans avaient considéré comme la seule et unique suite valable des films de Star Wars, donc ce que plusieurs personnes appelaient jusqu'à très récemment le Heir to the Empire Trilogy, mais qui a été rappelé depuis, et c'est dire à quel point c'est le point important de la trilogie, The Thrawn Trilogy.
Dark Force Rises.
Dark Force Rising, c'est le deuxième roman.
Ok, merci, merci.
C'est le deuxième roman, mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là est relié, interrelié par un vilain, qui est un tacticien napoléonien, on veut. Dans le fond, le grand amiral Thrawn. Et évidemment, son sous-fifre, qui est un Jedi fou, qui s'appelle Jorus Sbaoth, qui est un Sith complètement fou, et cloné d'ailleurs.
Oh
ah ben tu vois, justement, ça c'est un élément canonique qui était suggéré dans Star Wars, c'est que le clone, le fait de cloner quelqu'un, fait que les copies qui ressortent ont perdu quelque chose. Donc si tu clones un Sith, en général, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui a les mêmes capacités au niveau du contrôle de la force, mais qui est beaucoup plus facile à manipuler, parce que pas tout à fait brillant. Donc c'était le cas de...
Les clones du deuxième épisode sont un peu plus faciles à manipuler, donc c'est pour ça qu'on peut les enrôler plus facilement dans
absolument.
Okay. Et c'est aussi pour ça que les Stormtroopers sont tous... Tu sais, parce que quand on voit dans Attack of the Clones, le Stormtrooper original...
Jango Fett.
Ouais, exactement. Ouais. C'est un grand guerrier, mais Han Solo est capable d'en dépasser 18 dans Empire Strikes Back. C'est que c'est des clones de clones de clones de clones.
Exactement.
De plus en plus, plus en
plus.
C'est ça. C'est des trucs de même que t'es comme.
Mais tu vois, cette idée canonique-là, on la trouve dans le Thrawn Trilogy.
Oui, exactement.
Mais là, le Thrawn Trilogy n'est plus possible parce qu'on est en train justement de montrer le futur des personnages connus de Star Wars, de Leia, de Luke. On est en train de le voir. Donc, ces romans-là peuvent plus exister. Par contre, tout le monde s'entend à dire qu'un des personnages les plus importants de tout l'univers de Star Wars, c'est le grand amiral Thrawn.
Ouais.
Que c'est un des personnages les mieux écrits, les mieux façonnés, les plus intéressants. Ces dernières années, et Dieu seul sait que vous allez m'excuser ma mauvaise prononciation, il y a une race qui a été ajoutée à l'univers de Star Wars qui s'appelle les Yuuzhan Vong. Je suis pas sûr que je le prononce bien, enfin, malheureusement. Cette race-là est intéressante parce que c'est... si vous en avez pas entendu parler... c'est une proposition très intéressante au semi-canon et au non-canon. C'est essentiellement Hellraiser in Space. Ce sont essentiellement des cénobites guerriers de l'espace qui ont une culture de la souffrance.
Ouais.
Donc, chacun des guerriers de cette race-là sont mortifiés, sont scarifiés, ont un seuil de tolérance monumental à la souffrance. Même les prêtres de cette culture-là ressemblent à deux gouttes d'eau, à Pinhead et à des cénobites. Et là où cette race-là devient intéressante, c'est qu'elle n'a rien à foutre ni des rebelles, ni de l'Empire. Ça prend la totalité des ressources de l'Empire pour pouvoir s'opposer à cette fameuse race-là qui en a rien à foutre de la force, en a rien à foutre de l'argent, qui est là pour une raison religieuse, et c'est l'oblitération des gens qui comprennent pas que la souffrance, c'est un dogme. Donc, cette race-là a traversé plusieurs itérations de l'univers de Star Wars, les romans, les bandes dessinées, on les a vus, à un tel point que des fans se mettaient à spéculer, ça c'est intéressant comme spéculation, que tous les gestes que pose l'Empire depuis le début de Star Wars, c'est en fait une préparation à une guerre beaucoup plus importante qui s'en vient avec cette fameuse race-là.
Le théorème Mass Effect.
Exactement, exactement. C'est cette idée que tout d'un coup, voilà, les méchants de cet univers doivent prendre exactement les moyens qui s'imposent pour l'alliance des rebelles, et l'Empire ne voudra plus rien dire le jour où les Yuuzhan Vong vont apparaître dans l'univers de Star Wars.
De la même manière que quand les Reapers vont arriver.
Voilà, exactement, de la même manière. Donc, ça, c'est fini. Évidemment, ça rend tout le monde confortable. On retourne à cette vision classique du bien versus le mal, d'un empire versus des rebelles, et c'est très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais néanmoins, il y a des fans qui ont fantasmé, qui ont adoré ça. Il va probablement avoir des centaines de fans qui vont demander à genoux, pouvez-vous juste faire apparaître un Yuuzhan Vong au lieu d'un Jar Jar Binks, au lieu d'un Gungan? On veut pas voir de Gungan. Voyez, non mais who's with me on that one? Non mais voilà donc les exemples où la canonicité devient un foutu mal de tête.
Oui.
Il faut plaire aux fans, faut pas déplaire aux fans, faut inclure les fans
ou pas,
faut pas les laisser toutes contrôler
ou pas. Moi j'ai j'ai pas rencontré ton père, mais j'ai découvert ton père aujourd'hui, puis je trouve que c'est une belle façon de percevoir les choses, tu sais, c'est de dire, ouais, parce que là, on parle encore du papa d'Elisabeth, ouais.
Bonjour.
Il y a tout
bonjour,
ça.
Bonjour, papa d'Elisabeth.
Non, mais il y a tout ça, tu sais, il y a, oui, moi je connais Star Wars, ma fille connaît Star Wars, mon fils connaît Star Wars, mais moi je connais Star Wars. Il y a des limites. Puis il a mis ses limites.
Non, pas du tout. C'est pas ça qui est arrivé.
Oups.
C'est pas ça.
J'allais l'admirer, là, j'avais allumé.
C'est pas ça qui est arrivé. Il s'est retiré, en fait.
Mais c'est ça, exactement. Oui. Moi, j'admire ça à l'os.
Oui, c'est ça. Il s'est retiré, qui a dit, vous vivez votre affaire.
Ouais.
Moi, je ne suis plus là.
C'est ça, je ne pousse plus sur les limites du récit. J'ai mon écosystème, mon
corps,
je vis bien dedans.
Oui.
C'est l'idée de moi, j'allais à mes messes de minuit en latin, c'est pas vrai que je vais aller à une messe à gogo. criquet. Non. Mais tout ça pour dire que si je faisais une comparaison avec Star Trek tout en parlant de Star Wars depuis tantôt, c'est que, comme je le disais, Star Trek a plus de fluidité. Quand on retrouve un comédien comme Tim Russ, qui jouait Tuvok dans la série Voyager, c'est un homme qui s'obstine à faire constamment des fan-films.
Ouais.
Et il a tellement de puissance quand vient le temps d'en faire qu'il réussit à aller chercher une quantité énorme des comédiens de l'univers de Star Wars, de Star Trek, pour leur faire jouer leur propre rôle. Donc, mal de tête semi-canonique, où on sait plus possible de savoir qui joue quoi. Mais attends, ça fait-tu partie de la continuité?
Pourquoi Chekhov, il est déprimé, c'est un capitaine? Ah oui, parce que...
C'est un univers parallèle. Tim Russ qui dit, non, attends, c'est canonique. Pourquoi? Parce que je suis Tuvok.
Yeah!
C'est canonique parce que je suis Tuvok. C'est pas débattable, c'est pas argumentable. Donc, ce que Star Trek a de plus... C'est l'éternel combat. Ce que Star Trek a de plus que Star Wars là-dessus, c'est un certain sens du ridicule et de l'auto-parodie.
Ouais.
Preuve à l'appui, le film Galaxy Quest, qui est en entier une thèse complète sur le propre ridicule qui est capable de s'attribuer Star Trek. Ce que Star Wars n'a pas encore fait, à l'exception de Fanboys. Et je veux pas en parler.
Ouais.
Donc, Galaxy Quest, Clem. For shits and giggles, je vais entendre parler de Galaxy Quest.
Je l'ai pas vu, fait que calme-toi.
OK.
C'est blague, vas-y. Donc, tu me sorti en 97, il est à peu près temps que je le vois.
Tu es hors de l'église.
Ouais, merci.
Porte ta croix, va-t'en.
Oh non, il m'a marqué au fer rouge.
Je suis ton père. Bref. Donc on est en 99, mine de rien, ce film a déjà pas loin de la vingtaine d'années. C'est... Là, je me sens vieux.
Non, là, c'est le temps que j'aille le voir.
Et en fait, je l'ai pas vu il y a si longtemps que ça. C'est ça qui est, le pire.
Aucune ride. Que le putain de film a pris.
Ok, je pensais que c'était Clément.
Moi, je l'ai vu genre l'année passée.
Seigneur, j'ai dit une espèce de bévue. Les fans viennent de m'envoyer chier directement. Spaceballs, je suis désolé.
Ben oui!
Galaxy Quest est à Star Trek ce que Spaceballs est à Star Wars. Je m'excuse.
Je me demandais aussi pourquoi tu l'avais pas nommé.
Mon Dieu!
Je mérite une fessée.
J'ai été vilain.
Robert Lepage qui vient s'inclure ici tout d'un coup. Bonjour, Bobby.
Right back to you.
Faut savoir que la plupart des acteurs de Star Trek ont vu Galaxy Quest, sont allés voir Galaxy Quest et se sont explosé de rire tant qu'ils ont pu et ont célébré Galaxy Quest comme étant une autodérision parfaite de Star Trek. Mais pour moi, il n'y a pas que de l'autodérision, il n'y a pas que de la parodie dans ce film-là.
Il y a de l'hommage éploré.
Ben, c'est surtout que pour moi, il y a une souffrance immense dans ce film-là.
Je suis content que tu le dises.
Est-ce que je suis le seul quand même à penser autour de cette table que Galaxy Quest a quand même des côtés absolument horribles.
Ah oui, absolument.
Du point de vue du mensonge, de l'illusion, de la désillusion.
Entièrement d'accord avec lui.
Parce que la quest en question, The Quest en question, c'est la quest galactique, c'est la quête galactique dans laquelle les acteurs vont se projeter.
C'est ça le pitch, hein, Jean-Michel, essentiellement, de Galaxy Quest. Il est fabuleusement simple. C'est que, essaie d'imaginer que Shatner, Nimoy, en plein milieu d'une convention, se font prendre par des extraterrestres et dire « On a besoin de la gang de Star Trek. On est des comédiens, tabarnak. On est des comédiens. Nous ne sommes pas des capitaines des suites. Oui, mais on a besoin que votre esprit fasse la mission. »
Puis là, Tim Allen, il est comme « Non, je vends de la coke. »
Genre.
Tout le temps.
Je vends de la coke et j'ai un toupet.
Parce que c'est essentiellement ça, Tim Allen. On se rappellera bien que c'est un grand vendeur de coke qui est juste tombé dans un film.
C'est bien connu, ouais.
Mais en fait, on se trouve dès le...
Ouais?
C'est vrai,
ouais.
C'est vrai, Tim Allen, c'était comme le pusher de moitié d'Hollywood.
Ouais, tout à fait. C'est intéressant, ça doit être lui qui fournissait Bill Cosby. Criquet! Criquet! Criquet!
Ouais, pardon. C'est surtout qu'il faut que je récupère l'argumentation derrière ça.
Oui, je suis désolé.
Hein. Reviens,
mais,
reviens.
Mais donc, c'était horrible dans le mensonge, la désillusion et tout ça.
Oui, absolument.
May the voilà, force be with me. Le grand marteau de Graptar. Je vous vengerai. Oui, on est dans une...
C'est une ligne de Galaxy Quest.
Oh, ok, cool, c'est ça. Je pensais vraiment que
c'est une
ligne
que l'équivalent de Spock dit.
Ok, moi, j'étais vraiment content que advenant mon... Ben, quand je vais mourir, tu vas me venger.
Ouais, promis.
Je vais te laisser parler.
On va y arriver. Donc oui, tout le pitch de Galaxy Quest repose sur une désillusion totale, une désillusion qui commence par les acteurs eux-mêmes, entre l'acteur shakespearien qui va juste devenir mélancolico-dépressif, qui supporte juste plus son rôle de Monsieur Spock ou de proto-Monsieur Spock.
Et qui est maquillé tout le long.
Oui, tout le long. Parce à aucun moment on le voit.
Il veut se démaquiller, mais
ça.
On peut pas.
C'est ça. Oui. C'est ça. À aucun
donc,
moment.
Donc, qui parle évidemment de cette schizophrénie qui affectait Leonard Nimoy à l'époque où il écrivait son roman, son autobiographie, oui. I Am Not Spock, auquel il répondra 10 ans plus tard en disant I Am Spock. Non, il a écrit 2 autobiographies. Une qui est d'un point de vue qui est favorable à Star Trek, l'autre qui est défavorable.
Hélène Lorrain, t'as-tu entendu?
Oui.
Et le commandant du vaisseau, c'est celui qui est le plus... L'acteur qui fait le commandant est celui qui est le plus fervent dans son rôle. Et il va au détour d'une toilette, tout simplement, au détour il va juste aller pisser, finalement. Et il va se rendre compte qu'il est considéré comme un has-been par les fans eux-mêmes. C'est peut-être la plus grande horreur que peut vivre un acteur. Parce que c'est arrivé que certains acteurs, et ça arrive encore aujourd'hui, que certains acteurs tombent en désuétude alors qu'ils n'en ont même pas conscience.
Il y a eu très peu de comédiens dans ces franchises-là qui ont réussi à tomber dans l'horrible enfer de la has-beenerie pour avoir su reprendre ces effectifs-là et remonter et prendre conscience eux-mêmes de ce côté d'has-been et y jouer avec. Shatner fait partie des grandes... Tom Jones fait partie de ces grandes réussites de récupération d'un statut de has-been qu'on leur a donné.
C'est pour ça que l'album de Shatner s'appelle Has-been.
Et est-ce que j'oserais le dire? Est-ce que je vais le dire?
He's naughty.
Mark Hamill. Mark Hamill est un des plus beaux exemples de gars qui semble avoir attendu 40 ans redevenir Luke Skywalker. En toute improbabilité, ça va se passer. Donc, effectivement, c'était le statut de has-been propre à Shatner.
Et là, à ce moment-là, au moment où notre pauvre pseudo-commandant prend conscience qu'il est dépassé, que la série n'existe plus dans le cœur des fans, ou elle n'existe plus comme lui voudrait qu'elle existe, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner, c'est aussi une ligne de Galaxy Quest, eh bien, arrive cette bande d'extraterrestres qui passe pour des fans au départ. Parce qu'au tout début, pendant de longues minutes, notre commandant va s'imaginer qu'il est face à des fans qui veulent lui faire un show. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la galaxie et les extraterrestres croient dur comme fer que ce qu'ils ont visionné du commandant et de son équipage sont des documents historiques dans le texte. Et tout le génie de Galaxy Quest et toute l'horreur, toute la souffrance de Galaxy Quest vient de là, du fait que les extraterrestres et les acteurs eux-mêmes vont réapprendre à vivre dans l'illusion, alors que les extraterrestres, eux, vont devoir en sortir, et en sortir avec une violence extrême. D'ailleurs, je viens de lire une anecdote que je n'ai pas pu vérifier, chers auditeurs et chers collègues animateurs et collègues, si vous pouvez la vérifier, ça m'aiderait. Il paraîtrait que le nom de Saris, qui est l'ennemi principal de Galaxy Quest, avec cette tête d'orque tellement tolkienienne, qui est assez magnifique, on dirait un orque. C'est magnifique, il a plus un côté orque du Seigneur des Anneaux que d'un extraterrestre de science-fiction, je trouve, dans son maquillage. Mais bon, il paraît que Saris est en fait une petite vengeance de Mark Johnson envers un critique de cinéma qui s'appelait Saris dans son nom de famille, mais j'ai perdu son prénom. Un critique de cinéma qui en fait a descendu un film de Mark Johnson avant qu'il ne fasse Galaxy Quest. Et en fait, Johnson aurait décidé de se venger en faisant de Saris l'ennemi principal du film. Ce que je trouve assez drôle.
Il y a plusieurs degrés à ce film-là, puis à ce qu'on peut y lire et analyser. C'est assez fou. En fait, ce qui me surprend, ce que je trouve absolument génial avec Galaxy Quest, c'est que c'est un film qui réussit justement à faire l'analyse des codes de A à Z de comment un épisode de Star Trek fonctionnait. Par exemple, le personnage qui est joué par Sam Rockwell était un comédien qui jouait l'éternel Ensign. Et il se retrouve dans une position de red shirt dans le film et dans Galaxy Quest et il explique « Mais non, je veux pas être un red shirt, toutes les red shirts meurent. » Là, ça devient intéressant, c'est de voir tous ces personnages-là nous étaler la codification de l'univers de Star Trek, y compris l'obsession pour le canon. C'est-à-dire, oui, mais tu te souviens ce qu'on a fait dans cet épisode-là? Dans cet épisode-là, on a fait ça et c'est comme ça qu'on a battu les extraterrestres. Mais oui, on n'a pas fait ça.
Mais c'est ça. C'est pas
une vraie histoire. C'est pas, non.
Et le plus bel exemple et l'exemple le plus drôle, c'est peut-être le personnage de la blonde dont Sigourney Weaver a fait la comparaison avec l'héroïne d'Alien qui était nettement plus active.
Elle joue l'antithèse totale de Ellen Ripley, c'est ça qui est génial.
Totalement, c'est l'antithèse totale de Ripley. Et en fait, sa fonction se résume à répéter ce que dit l'ordinateur et à dialoguer avec l'ordinateur. Et à un moment donné, elle va le faire par réflexe. Et on va avoir notre proto-Spock qui va dire « Non mais c'est bon, on avait compris, on avait bien compris qu'on était dans la marde. » Et elle va dire « Ouais, excuse-moi, c'est un réflexe. J'ai qu'une seule fonction dans cette putain de série, c'est de répéter ce que dit l'ordinateur et je vais le faire jusqu'au bout, même si ça te fait chialer, puis m'emmerde pas. » Et c'est assez magnifique parce que tout le film est rempli de ce genre de punchline, du fait que on met constamment une distance avec le canon et on sait très bien qu'on est en train de parodie du canon et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est
magnifique. Ben oui, et ce que je trouve vraiment important avec Galaxy Quest, c'était le passage des années va avoir prouvé que la satire fonctionne, que la parodie a fabuleusement bien fonctionné, le film est immensément culte maintenant. C'est que si on associe à Star Trek tout un ton un peu sentencieux d'une franchise qui se prend très au sérieux, c'est une franchise qui arrive vraiment beaucoup mieux que Star Wars à rire d'elle-même et à se remettre en question et à se parodier elle-même. D'ailleurs, il y a des épisodes de Star Trek qui s'auto-parodient. Pensons à l'épisode de Star Trek anniversaire qu'on retrouve dans Star Trek Deep Space Nine qui s'appelle Troubles and Tribulations, qui est un accomplissement télévisuel sans nom, où les personnages de Star Trek Deep Space Nine sont forcés de reculer dans le temps dans un épisode de Star Trek original et où, d'ailleurs technologiquement c'était très peu courant à l'époque, où on a fait cohabiter les personnages de la nouvelle série et de l'ancienne série et on les a fait parler à l'écran. Tout devient dans cet épisode-là une série de commentaires sur les codes de la série originale. Par exemple, avez-vous vu le linge que je suis en train de porter? Est-ce que ça veut dire que je suis un capitaine? Oui, si tu portes du doré, t'es capitaine. Mais si je porte du rouge, non. Le rouge à notre époque, c'est les capitaines et le jaune, c'est la technique, mais pas à cette époque-là. Donc, ok, attends, je comprends bien. Les capitaines portaient du doré, les gens de la technique portaient du rouge et les femmes portaient beaucoup moins. Parce qu'évidemment, les personnages ont une petite jupe où on leur voit littéralement le rat de la touffe. Donc, dans cet épisode-là, il y a une série de commentaires sur les tropes de Star Trek. Alors, à part Spaceballs, Star Wars attend encore patiemment cette œuvre de fiction et de parodie qui est un long commentaire sur ses codes et ses propres codifications.
Je ne l'ai pas écouté, donc je parle peut-être à travers mon chapeau, mais la parodie de Star Wars de Family Guy, en fait, aussi.
Ah oui, ouais. Absolument magnifique. D'ailleurs, tous les titres de ces trois épisodes-là sont les titres originaux de travail des films.
Ah, vraiment?
Donc, ça s'appelle Blue Harvest, parce que c'était le titre original du film, pour pas que les gens, évidemment, sachent qu'il était question
d'une suite
de
Star Wars. Mais non, mais ça se peut pas que le deuxième, c'était something, 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 Dark Side, là.
Non, pas le deuxième. Mais Blue Harvest, oui.
OK.
Blue Harvest, l'autre aussi.
En conclusion, je confirme que c'est bel et bien le critique Andrew Saris qui a été moqué.
Oui, c'est ça.
De par sa mauvaise critique du premier film de Mark Johnson qui s'appelait The Natural.
Chers auditeurs, c'est tout le temps qu'on avait pour les canaux de Star Wars. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous pendant plus de 3 mois, Clément. Bon retour chez toi. Encore.
Merci.
Et c'est un plaisir de t'avoir pour la première fois, ma chère, en espérant que tu reviendras.
J'aimerais bien.
Yay!
Donne-moi la foi, laisse-moi toucher du doigt toutes tes envies.
Alors que tu es là, je me rappelle là-bas où pour la première fois je t'avais vu. Aux commissures des corps, les traits un peu plus forts, nos corps se changent en or, nous sommes perdus. Ici que tout s'arrête, danse avec moi. Ici que tout se prête.
Cinéfest, c'est le Festival des arts de Sorel-Tracy. Et Sorel-Tracy, c'est à seulement une heure de transport en commun de Montréal. En plus d'avoir une programmation musicale sur laquelle on ne se peut plus, ici à Choc, le FAS présente des courts-métrages, du théâtre et une galerie d'art visuel. Alors si tu veux pas manquer We Are Wolves, Solids et Organ Mood, Choc te donne la chance de participer à son concours pour gagner une base valide pour toute la fin de semaine du festival. Pour tous les détails, on te donne rendez-vous sur le site de choc.ca. Cet été, venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasseries telles L'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de Griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombes.com.
Tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public.